Bonjour, Court-Circuit prend la mer aujourd'hui. Romain Verger nous fait découvrir son métier le temps d'une après-midi. Il est pêcheur à Belle-Île-en-Mer et capture ses poissons grâce à la ligne. Entre deux prises, il nous parle de son parcours, de son quotidien et de sa vision de la profession. Il pêche uniquement ce dont il a besoin pour vivre, soit une trentaine de kilos par sortie, qui sont ensuite vendus exclusivement en direct sur l'île. Et ce jour-là, on le retrouve sur la plage de Stervraz, au nord-ouest de Belle-Île. Bonne écoute!
Bonjour, je m'appelle Romain Verger, j'ai 46 ans et je suis ligneur à Belle-Île-en-Mer. Je suis parti au lever du jour ce matin à 7h30, c'est encore nuit, et puis voilà, j'étais sur la zone de pêche au lever du jour. Pénible est passé. Alors là, on va essayer de pêcher les dorades. Bon, tu vois, là, il y en a une. J'attends éventuellement qu'il y en ait une autre qui morde avant de remonter. On sent juste des à-coups dans l'extrémité de la canne, le sion, qu'on appelle le sion de la canne, voilà, et qui indique les touches du poisson. Une fois que le poisson est piqué, l'idée c'est d'essayer de le remonter sans l'abîmer et sans le perdre. Moi j'ai un tout petit bateau, donc c'est un bateau de 7 mètres, donc on a tout le temps à maintenir son équilibre, et puis effectivement le fait de jouer avec une canne toute la journée, ça finit par être fatigant. Et ce qui est peut-être le plus éprouvant dans cette pêche, c'est la fatigue nerveuse que ça peut engendrer, où on est tout le temps en recherche du poisson, parfois on trouve le poisson, on n'arrive pas à le faire mordre. C'est une activité qui peut être un petit peu stressante, quoi, hein, par moment. C'est la seule manière qui me paraît cohérente de pêcher. Voilà. Tu vois, là il y a un filet à bord, c'est un filet que j'ai ramassé ce matin qui flottait à la dérive. Voilà, donc un gros tas de plastique. Je trouve que de travailler à la ligne, c'est ce qui me semble le plus en accord avec l'environnement, qui me permet de vivre. Le plus respectueux vis-à-vis de l'animal aussi. Je trouve que c'est un défi quotidien de pêcher, de gagner sa vie avec du fil et des hameçons. Et avec une activité basée principalement sur son propre savoir-faire, quoi. À la base, j'ai une formation en biologie marine. J'ai travaillé dans ce domaine-là, en zone subantarctique principalement. J'ai aussi un parcours d'aventure au niveau marin assez fourni. J'ai traversé l'Atlantique à la rame en fin 2006, dans le cadre de la première course transatlantique à l'aviron solitaire. Voilà. Et c'est une course que j'ai remporté, mais sachant que j'avais toujours dans un coin de la tête d'être pêcheur. Il y a des blancs parce que je fais des nœuds entre temps, voilà. J'ai travaillé plusieurs années, ouais, 8 ans autour de Ouessant. Alors, j'étais basé à la Nîle-Dude, plus exactement, sur le continent, et ma zone de pêche c'était Ouessant. Et là je faisais essentiellement du bar de ligne. Ce qui m'a poussé à arrêter cette pêche-là, c'est deux facteurs. C'est-à-dire que le premier, c'est la raréfaction du bar sur la zone Manche, quoi. Donc j'avais l'impression d'être en train de faire les fonds de tiroir, c'est-à-dire de pêcher les derniers poissons qui étaient là, en développant de plus en plus ma technicité, mon savoir-faire, mon équipement. Tout ça pour maintenir une rentabilité, mais en tout cas au détriment de la ressource. Et puis le second facteur qui m'a poussé à arrêter, c'est que je ne me sentais pas en accord avec ce qui m'avait poussé à ce métier-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans une pêche intensive à échelle individuelle. Je pêchais presque 10 tonnes de poissons par an pour vivre, et ça me paraissait une totale aberration en fait. Sachant que mon idéal, c'est de sortir avec un bateau et de pêcher un poisson pour le manger. Voilà. Et puis après quelques années de réflexion et d'autres expériences, j'ai décidé de me réinstaller à la pêche avec une autre logique, avec un tout petit bateau qui est peu coûteux, qui me génère peu de frais, et en vendant toute ma production en direct sur Belle-Île. Voilà. Là, en fait, je regarde mon positionnement sur la carte bathymétrique, et je regarde le sondeur. En fait, ça, c'est un profil du fond, et ça, c'est de la détection de poissons. Voilà ce qu'on voit là, dans la colonne d'eau, en fait. Trouver du poisson, voir du poisson sur un sondeur, c'est une chose, le faire mort, c'est autre chose. Je commence à travailler début avril, vraiment, jusqu'à fin octobre. C'est relativement court pour gagner sa vie sur une année, sur cette période-là. Donc ça met un petit peu de pression. Quand il y a plusieurs jours consécutifs où on ne peut pas sortir en mer. Voilà, néanmoins, aujourd'hui, ça fonctionne économiquement. Et j'en vis correctement. Donc le but n'étant pas d'être le plus riche du monde. Au-delà du fait de vendre en direct, c'est surtout que je m'affranchis de la logique de marché, c'est-à-dire de la loi de l'offre et de la demande. En fait, moi, je fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'un poisson que je le pêche au mois d'avril, au mois d'août ou au mois d'octobre, je le vends le même prix. Et ce poisson, pour moi, c'est le même. Il représente le même travail pour moi. Et je trouve une aberration qu'aujourd'hui, qu'un jour, un produit vale X, et que la semaine suivante, il vale X fois 2 ou X divisé par 2. Parce que ça ne permet pas aux premiers maillons de la chaîne, que sont les producteurs, de vivre correctement et d'avoir une certaine sécurité dans son activité. Et c'est ce qui pousse, à mon sens, dans la pêche, beaucoup à la course au toujours plus, quoi, à pêcher toujours plus, parce que on ne sait pas quel prix on va avoir. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'essaye de pêcher une certaine quantité de poissons quotidiennement qui correspond à un certain chiffre d'affaires quotidien par rapport au prix fixe du poisson que je pratique. Si demain je décide d'expédier mon poisson à Paris, je ne sais où, je vais aussi perdre certainement ce prix fixe, et je vais devenir dépendant de quelqu'un d'autre. Le succès de ma pratique, il est basé sur ma capacité d'observation et d'adaptation. Donc si je ne l'ai pas, il faut que je fasse un autre métier. Quoi. C'est, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'était peut-être un petit peu moins vrai il y a quelques décennies où il y avait des densités de poissons plus importantes et c'était certainement un petit peu plus facile de pêcher de cette manière-là auparavant. Quoi. Il y a peut-être aussi à cette époque-là d'autres engins qui n'étaient pas présents aujourd'hui, enfin ou pas en telle quantité et qui n'avaient pas fait autant de mal à ce moment-là. Donc, c'est une profession qui a diminué en nombre de navires. Je pense qu'il est certain dans les ligneurs, il y a certainement une population de ligneurs qui est plutôt une population issue de gens qui sont pas issus du milieu de la pêche, qui sont venus à ça par conviction, par passion, un petit peu comme les agriculteurs bio il y a quelques décennies. Mais après, c'est pas aujourd'hui une population en expansion. On peut vite s'arrêter à l'image d'Épinal du gars aux cheveux longs qui pêche tout seul sur son bateau avec une fille et un hameçon. Mais c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile, quoi. Comme c'est pas facile d'être sur un chalutier qui traîne son chalut H24. Avec des réveils toutes les deux heures, avec parfois des périodes très longues sans dormir parce que il faut réparer le chalut, il faut ramander. La pêche, dans sa globalité, ça reste un métier éprouvant. Je pratique l'ikejimé. En fait, chacun des poissons que je pêche, je les tue. Ce qui est rarement le cas dans les pratiques de pêche, en fait. C'est-à-dire que la plupart des pratiques, les poissons, on les laisse s'asphyxier. C'est une mort par asphyxie, pardon. Donc là, chaque poisson, en fait, il est poinçonné au niveau du bulbe cérébral. Et par cet orifice-là, en fait, on vient chercher le canal médulaire et avec un fil ou un câble, on détruit le système nerveux, en fait, au niveau de la moelle épinière. Et ensuite, les poissons sont saignés, sont mis à saigner dans un bac avec de l'eau. Et suite à ça, ils vont être filmés, glacés rapidement qui va permettre d'avoir une qualité optimale et tout en respectant au maximum l'animal, c'est-à-dire qu'en abrégeant les souffrances de l'animal au plus vite. C'est un poisson qui est où la différence est notoire entre un poisson de ligne déjà et un poisson de filet ou de chalut, c'est le merlan. Un poisson qui est un peu le poisson mal aimé de cantine sur un merlan de ligne ikejimé. On a une chair qui est hyper fine, à la fois ferme et fondante. Et c'est hyper goûteux. Moi, c'est un de mes poissons préférés. Quoi. Quand j'en pêche, je me fais deux filets de merlan en rentrant à la maison, juste cuit à l'unilatéral. C'est juste un régal. A contrario, c'est un poisson qui, s'il est maltraité, s'il meurt asphyxié, qui est farineux, qui est pas terrible, quoi. Voilà. Je le cuis uniquement côté peau. Je fais un petit mélange huile d'olive et beurre. Je le cuis tout doucement, voilà, côté peau. Et la cuisson, on voit la cuisson vraiment qui. La chair qui blanchit au fur et à mesure de la cuisson. Et le repère pour la cuisson, je trouve, qui est optimal, c'est ce que je dis aux clients. Si, quand vous allez commencer à vous demander si c'est cuit, c'est que c'est cuit. Quand vous allez vous dire c'est cuit, c'est que c'est trop tard, en fait. Et c'est vraiment en fait le moment où, où la face visible, donc le côté chair, est encore translucide, opalescent, qu'il n'est pas blanc. Voilà, et là je trouve qu'on a vraiment la cuisson parfaite pour le merlan. Enfin, c'est valable pour tous les poissons qu'on cuit à l'unilatéral, hein, de manière générale. Mais je trouve que sur le merlan, c'est des poissons qui ne supportent pas du tout, je trouve, la surcuisson. Quoi. C'est-à-dire qu'à 2-3 minutes près, soit c'est excellent, soit c'est moyen. Quoi.
Merci d'avoir écouté Court Circuit. J'espère que cet épisode bien iodé vous a plu. À très vite pour un nouveau portrait.